Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau week-end dans Mondial Sport. Tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI, tous les exploits à toutes les époques. Voilà 30 ans pratiquement, jour pour jour, qu'une idole, une icône nous a quittés. Ayrton Senna n'aura jamais eu le temps de vieillir. Le beau gosse, tout droit sorti d'un catalogue Ralph Lauren, n'aura jamais vu sa mèche impeccable disparaître, ses bouclettes noires blanchir. Surtout, Ayrton Senna n'aura jamais quitté les circuits de F1. Il n'aura jamais vu son étoile pâlir. Le 1er mai 1994, le Brésilien sort une dernière fois de la piste pour définitivement entrer dans la légende. Nous lui rendons hommage dans Mondial Sport ce samedi.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à l'hôpital de Bologne en Italie après un terrible accident au cours du Grand Prix de Saint-Marin. Ayrton Senna roulait à plus de 300 km à l'heure quand sa voiture est sortie de la piste.
14h16, la caméra embarquée dans la voiture de Schumacher est braquée sur la Williams Renault d'Ayrton Senna. Lorsque celle-ci, pour des raisons encore inconnues, quitte la piste à près de 260 km/h. L'impact contre le mur. Le choc a été terrible. Rapidement, le Brésilien est secouru, mais il va rester de longues minutes inanimé dans sa voiture. Toutes ces images sont retransmises en direct dans le stand Williams Renault. C'est la consternation. En fait, immédiatement, les docteurs pratiquent une intubation avec ventilation et une mini-trachéotomie. Intervention opérée à même la piste pendant plus d'un quart d'heure. Lorsqu'il arrive à l'hôpital de Bologne, les médecins constatent des fractures multiples à la base du crâne et des problèmes neurochirurgicaux. À 17h39, son état est jugé dramatique. Peu après 18h, son décès est annoncé officiellement.
Le 1er mai 1994, le monde du sport, et peut-être le monde tout court, s'arrête. Ayrton, apparemment, on pouvait dire ça en français, vous pouvez l'entendre en tout cas, meurt en Italie, fauché à 34 ans à peine. 30 ans plus tard, nous allons revisiter sa vie et son œuvre. Alors, il ne s'agira pas d'une triste procession, plutôt d'une course amicale pour célébrer cette légende brésilienne sur notre grille de départ. Lionel Froissart, bonjour Lionel.
Bonjour à vous.
Vous êtes journaliste pour Sport Auto, ancien journaliste pour le quotidien Libération, auteur de L'icône immolée, c'est aux éditions En Exergue, collection La Nuit d'Avant. Il s'agit d'un récit à la première personne et le narrateur, c'est Ayrton Senna lui-même. Et la nuit, les heures, voire les minutes qui précèdent son accident, il les raconte, il médite sur sa Formule 1, sur sa carrière, sur les dangers de sa discipline, sa rivalité avec Prost. Et puis s'il y a du bruit autour de vous, c'est parce que vous êtes en direct de Miami, où se déroule un grand prix de la saison actuelle. La Formule 1 ne s'est pas arrêtée avec Ayrton Senna. Merci beaucoup d'être avec nous. Prêt à démarrer également, Annie Gasnier. Bonjour Annie.
Bonjour Hugo.
Icône tout court de RFI, avant de prendre les commandes de Radio Foot International, vous étiez correspondante de RFI au Brésil et Ayrton Senna était fatalement un sujet de prédilection. Au Brésil, on prononce pas Ayrton, a priori.
Ayrton. Ayrton Senna.
Ayrton Senna, avec votre accent, c'est pas seulement ça que vous allez amener la prononciation, mais aussi vos souvenirs de cette époque et de l'icône qu'était Ayrton Senna. Quand Radio Foot et Mondial Sport se croisent, c'est aussi l'occasion de faire appel à Patrick Huyard. Bonjour Patrick.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Grand fan de Formule 1. Lionel Froissart, est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre de votre roman, L'icône immolée ?
Évidemment, ce sont peut-être les années Libération qui ressortent un peu dans ce titre. Il y a une sorte de jeu de mots avec Imolé et Molar en italien. Et évidemment, se rappelle à cette façon dont a été un peu sacrifié finalement Ayrton Senna, puisque vous l'avez dit, ce week-end était dramatique, mais il était aussi parce que la veille, Roland Ratzenberger est mort aux essais qualificatifs et selon la loi italienne, si on avait constaté son décès comme c'était le cas sur le circuit, eh bien le circuit aurait été fermé et une enquête aurait commencé et la course n'aurait pas eu lieu. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Donc bon, il y a toute cette idée de sacrifice un peu de celui qui est devenu de fait une icône aussi à cause de de sa mort brutale et en direct, en Mondovision, comme vous l'avez dit.
Sa mort à Imola. Et justement, puisque vous commencez par ça, on peut en parler. C'est vrai que le week-end de la mort de Senna, la mort rôde sur Imola et autour de la F1, Patrick Juillard, comme le disait Lionel Froissart, Roland Ratzenberger.
Ratzenberger. Oui.
Ratzenberger, pilote autrichien.
Ouais, d'une petite écurie qui se battait pour arriver parmi les 26 pilotes qualifiés. À l'époque, il y avait 36 pilotes au départ pour 26 places sur la grille. Donc c'est de dire si c'était disputé et si même en fond de grille, la lutte était acharnée et Ratzenberger était un de ces pilotes qui se battait pour une des dernières places.
Qui était dans la F1 depuis peu de temps.
Voilà, c'était un pilote du je crois, 29 ans. Mm-hmm. Si je ne me
trompe pas. Il meurt donc la veille, lors des qualifications.
Et l'avant-veille,
Rubens Barrichello,
donc le compatriote Brésilien. Et proche d'Ayrton Senna, a un terrible accident et lui est...
Il sort inconscient du circuit, lui aussi.
Voilà.
Et en fait, immédiatement, Ayrton Senna fonce au petit hôpital qui était près du circuit. Et il va même, selon les témoignages, sauter la barrière et se retrouver tout de suite à la porte de la chambre de Rubens Barrichello. Et c'est lui qui, le premier, va rassurer tous les Brésiliens en parlant dans les médias en sortant de la chambre.
Il existe des images où on le voit découvrir en direct à la télévision, dans les télévisions de son écurie, dans les coulisses du Grand Prix, la mort de Ratzenberger.
Aussi,
Rubens et Roland, c'est justement le titre de votre premier chapitre dans l'icône immolée, Lionel Froissart. C'est quelque chose, oui, d'important, placer la mort de Senna, qui a évidemment pris toute la lumière, dans un contexte très sombre,
morbide,
pour la Formule 1, très morbide tout simplement, pour la Formule 1. Dans ce week-end en particulier, il y a presque quelque chose de symbolique, qui pourrait s'apparenter à une sorte de tragédie, le destin qui s'abat sur la Formule 1 et sur Ayrton Senna.
Oui, ce que je raconte, c'est qu'en fait, Ratzenberger donc, faisait son troisième Grand Prix. Il avait fait évidemment beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Et comme vous l'avez dit, il était dans une petite équipe. Il avait des ambitions assez modestes. Et Ayrton avait l'habitude de toujours saluer les nouveaux venus en Formule 1. Il était un des rares, parfois le seul à le faire, quand un nouveau pilote arrivait. Et donc, il a été voir Roland Ratzenberger au Brésil, au moment du Grand Prix du Brésil, qui était le premier Grand Prix de cette saison 94, et lui avait dit « Bienvenue parmi nous, amuse-toi, profite, sois heureux d'être là ». Et donc, Ratzenberger lui avait raconté à cette occasion, il avait dit « Tu sais, j'étais dans les tribunes en 88 à Suzuka, parce qu'à ce moment-là, Ratzenberger courait au Japon pour se faire un petit peu d'argent, justement, avec cette ambition au loin de parvenir à rejoindre la Formule 1. Il lui avait dit j'étais dans les tribunes au Japon en 88 quand tu as été sacré champion du monde. Voilà, bon, la discussion en était restée là, mais en tous les cas, moi je tenu à rappeler ce détail que Ayrton disait toujours, tenait toujours à accueillir les nouveaux dans ce sport, parce que il savait tous les sacrifices que ça suppose. Et même si lui venait d'une famille relativement aisée, sans être très riche, hein, mais la bonne famille, la middle class élevée au Brésil. Son père, c'est pas une famille où il y a plusieurs générations de gens très riches. Hein, c'était son père, Milton, est un self-made man qui a réussi dans les affaires et qui a pu offrir à Ayrton des voyages en Europe pour ses débuts en kart et en Formule Ford. Mais après, il a fallu trouver des sponsors, donc c'était pas une famille richissime. Donc Ayrton savait aussi tous les sacrifices que c'était, d'autant plus que pour un Brésilien, s'installer en Angleterre, il m'en a souvent parlé, s'installer en Angleterre, subir la météo,
la cuisine,
qu'il n'était pas super heureux là. Voilà,
vous lui faites dire dans votre livre, hein, il explique hein, qu'il n'aime pas être traité de... Vous lui faites dire qu'il n'aime pas être traité de gosse de riche et qu'on n'imagine pas ce que c'est pour un Sud-Américain de quitter la douceur de vivre brésilienne, je crois que ce sont vos mots, pour la pluie et la grisaille anglaise. Vous étiez où que faisiez-vous le jour de la mort de Senna, Lionel Froissart, puisque vous le connaissiez bien, et comment avez-vous vécu ce moment?
Bizarrement, j'étais Oui, bizarrement, j'étais à Imola, figurez-vous. Je travaillais pour Libération, évidemment. Et je commentais pour Canal Horizon, qui était une sorte de canal... Enfin, c'était Canal+, mais pour quelques pays d'Afrique francophone.
Donc, oui, maintenant, c'est Canal+, Afrique, oui.
J'ai commenté en direct les qualifications. Ouais. Et j'ai commenté en direct, évidemment, le Grand Prix, la Ligue, etc. Je suis allé parce que j'aime bien faire ça. J'étais avec un autre collègue journaliste qui était dans la cabine. Et dans les quelques minutes précédant le départ, je suis descendu sur la grille, mais très vite, parce qu'il a fallu que je remonte dans la cabine. Parce que j'aimais beaucoup, et j'aime toujours, aller sur la grille et voir un petit peu, sentir l'atmosphère. Elle était très particulière ce jour-là, vous pouvez vous en douter. Et comme tout le monde, j'avais été marqué et interpellé par le fait qu'Ayrton avait enlevé son casque, ce qu'il ne faisait jamais, je crois que dans toute sa carrière en F1, d'être sur la grille, il avait dû faire ça deux fois, trois fois maximum. Et ce jour-là, on a pu voir son visage qui était vraiment marqué par ce week-end noir, par tous les incidents et accidents qui s'étaient produits jusque-là. Et on sentait bien qu'il n'était pas dans son assiette. Alors, moi, je voudrais remettre quelque chose en place, c'est que il n'a jamais été question qu'il ne court pas ce Grand Prix. Il s'est posé des questions, évidemment. Il en a parlé à sa famille, à ses proches, à son physio, dont je parle beaucoup dans le livre, Joseph Le Berrer, qui était son plus proche confident, finalement, sur les Grands Prix. Et même la veille, quand il est allé sur les lieux de l'accident de Roland Ratzenberger, le docteur Sid Watkins, qui était le médecin, le docteur de la Formule 1 à l'époque, lui avait dit, mais écoute, le voyant bouleversé, lui avait dit, écoute, Ayrton, tu as été trois fois champion du monde, tu as beaucoup gagné, tu es riche, pourquoi t'arrêtes pas? Et Ayrton lui avait dit, mais je peux pas, docteur, j'ai encore beaucoup de choses à faire en F1, beaucoup de choses à prouver, et peut-être à se prouver à lui-même. Et donc, il n'était pas question qu'il ne court pas ce Grand Prix, même si, très franchement, il avait très très envie que ce week-end terrible se termine. Donc voilà, les circonstances étaient celles-là. Et en ce qui me concerne, donc voilà, quand j'ai vu l'accident, bizarrement, on voit la tête qui bouge, qui a un petit mouvement. Et pour moi, ça a été comme un signe. Je me suis dit, c'est fini. Bien sûr, je ne l'ai pas dit à l'antenne. Je ne pouvais pas me permettre de prendre ce risque et d'inquiéter les téléspectateurs, même s'il n'y en avait pas beaucoup sans doute, mais en tous les cas, j'étais très inquiet. Il y avait la cabine très proche de la TV Globo, où son frère Leonardo était là. J'ai essayé d'avoir des informations plus précises, mais comme moi, comme tout le monde, il n'en avait pas. Et on a entendu, c'est grave, après on dit c'est pas grave, c'est pas très grave, il a un bras cassé, etc. Enfin bon, informations contradictoires comme souvent dans ces cas-là. Et bon, finalement, on a appris tard dans la soirée, dans la journée, son décès. Mais pour moi, les choses étaient entendues depuis longtemps, hélas.
Mondial Sport, hommage à Ayrton Senna ce samedi. Musique brésilienne, justement, au menu, le choix de RFI, Bia Ferreira, à Conta Vai Chegar. Eu falo alto, grito mesmo, vê se não implica. A altura da minha voz é do mesmo tamanho da sua dívida. Mais de 500 anos, juros até multiplica. Com correção monetária adicional por covardia conta alta. Eu tô aqui pra cobrar. Pra não te esquecer que a sua herança vem de muitos pretos que não estão no raso, que foram parar no fundo do mar. Esse mesmo que você gosta tanto, o sal que você vê lá na praia é fruto do canto dessa multidão que não teve chance de nadar ou se salvar, porque era amarrado antes. Se vier com história de mimimi incoerente, não se ilude, branquitude, cês devem até os dentes. A conta vem, amém. 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 Ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? A conta vem, charamanaia. Eu não paro de pregar até que a Babilônia caia. Tu mastiga comida e sobra, vai pro lixo, prefere jogar fora do que dá pra um faminto. E compra pro cachorro só ração fina de quilo. E pra empregada paga menos do que um salário mínimo ínfimo. O seu desejo de mudança no seu íntimo só quer um like. Intolerância é a regra e ninguém erra. Só senta em cima do seu rabo e procura uma plateia pro seu show de horrores. Caminhando pra um abismo, usam ética e moral pra justificar seu racismo. Eu já tô de olho, vigiando você, a que defende racismo reverso em plena TV de tela plana. Terra plana, num plano de genocídio, quem anda em cima da grama é bendito, porque tá vivo e resistiu a mais um dia contra esse plano.
dia do amém até o dízimo, que é obrigatório, pois é mandamento bíblico. Dinheirinho sujo que já sai de helicóptero, limpo, abençoado pra deixar o pastor próspero. Amém, tá bem, ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém?
Bia Ferreira, Contavai, Chegar, Ayrton Senna, hommage dans Mondial Sport ce samedi, 30 ans presque jour pour jour après sa mort. Le 1er mai 1994, Annie Gasny, vous êtes correspondante de RFI au Brésil. Comment avez-vous vécu ce moment évidemment très important dans votre carrière et pour le pays dans lequel vous viviez à l'époque.
Oui, c'était un dimanche donc et machinalement, je dirais, je regardais le Grand Prix puisque là-bas, c'était à 9h du matin avec le décalage horaire par rapport à l'Europe.
Donc, on avait pris l'habitude de se lever
tous les Brésiliens
avec Senna.
On déjeunait, prenait le petit déjeuner avec Ayrton Senna sur la chaîne Globo et c'est vrai que c'était un peu une habitude. Quand j'étais correspondante à Buenos Aires, c'était pareil, c'était Senna, Prost et tous les pilotes de cette époque. Et quand survient l'accident, évidemment, il y a un détail comme ça, je m'en souviendrai toujours, c'était donc sur la chaîne Globo. Alors pendant l'accident, ils ne savent pas trop, ils meublent un peu avec le présentateur qui est en studio, très connu aussi, et qui avait un polo rouge. Et je me souviens qu'une heure après, il avait un polo noir. Et en fait, c'est lui qui va avec un correspondant à l'époque qui était Cabrini, que les commentateurs globaux avaient tout de suite envoyé à Bologne à l'hôpital et qui va annoncer la mort. Et c'était vraiment un drame national. C'était beaucoup d'affliction. Les gens parlaient de ça. Il y a eu 3 jours de deuil national décrétés. C'était le président Itamar Franco à l'époque. Moi, j'étais là. Alors, je travaillais pour France Info, je travaillais pour France Inter aussi. Et
beaucoup
tout.
De médias français.
Beaucoup, mais Nicolas Poincaré à l'époque était arrivé et on était partis à São Paulo ensemble et à l'arrivée du corps un matin, je pense que c'était le matin du 4 mai, et il y avait l'aéroport international de São Paulo est à une trentaine de kilomètres du centre de la ville et une immense avenue de beaucoup de circulation et il y avait des milliers de gens sur le tracé. On dit qu'il y avait plus de 2 millions de Brésiliens qui étaient sur le tracé, qui étaient sur les ponts. Alors le cercueil, évidemment, avec un drapeau brésilien dessus, avait été juché sur une voiture de pompiers, ça se fait beaucoup là-bas, sur un camion de pompiers. Et ils vont aller jusqu'au centre, jusqu'à l'Assemblée législative, c'était dans le parc connu de Ibirapuera. Et là, le cercueil est installé, évidemment fermé et avec toujours... Alors ce drapeau et puis le casque sur le cercueil.
Aux couleurs du Brésil aussi.
Alors le casque, oui, ça c'est une autre histoire. Il l'avait fait faire par un certain CJ Mosca que j'avais aussi interviewé ensuite. Et là, viendront pendant 24 heures à peu près 250 000 personnes qui viendront s'incliner devant le cercueil d'Ayrton Senna. Et le lendemain auront lieu les obsèques dans un cimetière Morumbi, qui est un cimetière un peu à l'américaine. C'est de la pelouse, c'est pas du tout des caveaux.
Et là encore, des obsèques retransmises en direct à la télévision.
Au Brésil, tout est toujours filmé.
Une marée humaine, en tout cas, des deux côtés de la route pour laisser passer le cortège. Les images, on les trouve sur YouTube, elles sont très impressionnantes.
Et étaient venues des personnalités du monde entier, et notamment des pilotes, Gerhard Berger, qui était son ami en plus d'être son camarade d'écurie, et puis Alain Prost qui était venu. Et ça, il y avait tout un symbole. Je me souviens qu'on n'avait pas pu l'approcher, pas pu lui parler, mais il était là et très affligé.
Et justement, Alain Prost, qui est un petit peu le miroir, le double en quelque sorte d'Ayrton Senna, leurs trajectoires sont un petit peu indissociables. En tout cas, celle de Senna est très liée à Prost, coéquipier, rival, ennemi. Je vais tenter un petit résumé, justement. Utilisant les extraits d'un documentaire qui s'appelle Senna, sorti en 2010, réalisé par le Britannique Asif Kapadia. Je vais tenter de résumer la...
On a aussi fait un beau sur Maradona.
Sur Maradona, exactement. Je vais tenter de résumer la carrière, en tout cas les points forts de la carrière d'Ayrton Senna. Et il sera beaucoup question d'Alain Prost. Ayrton Senna ne pilotera dans sa carrière que des voitures anglaises, après Tolman et Lotus. 1988, il débarque chez McLaren en tant que coéquipier, et bien d'Alain Prost, justement. Prost qui a déjà remporté le championnat du monde à 2 reprises dans cette écurie McLaren.
Alain, regarde ici, Alain, voilà.
It's a great opportunity for me. Very happy to work together with Alain.
Is it possible to be in call? The championship?
No.
Shit.
Can only be one winner.
Prost et Senna qui plaisantent devant les médias. À ce moment-là, c'est plutôt détendu. Mais ils plaisantent sur le fait qu'il n'y aura qu'un seul champion à la fin et à l'issue de leur première saison en commun. Ayrton remporte la mise. Lionel Froissart, l'un de nos autres invités du jour, en parlait. 1988, premier sacre mondial pour Senna. Au Japon, il rate son départ, mais il remonte jusqu'à remporter son premier championnat du monde. Mais derrière 1989, les relations avec Prost s'enveniment. Toujours au Japon, Senna et Alain Prost s'accrochent. Là encore, c'est décisif pour le titre. Senna reprend la course, sous les yeux d'un Prost médusé, mais qui ne se laisse pas faire et qui gagne le championnat du monde dans les coulisses.
La décision rendue par le Collège des commissaires sportifs du Grand Prix du Japon, excluant la voiture numéro 1 et le pilote Ayrton Senna des résultats de l'épreuve.
You're the world champion, Alain.
Apparently, yes.
Quand on est un grand pilote, quand on est parmi les meilleurs pilotes du monde, on n'avait plus le droit, on n'avait pas le droit non plus d'avoir un accrochage stupide.
I was blamed for everything and I was penalized for everything. I was treated like a criminal.
Accrochage stupide, nous dit le français Jean-Marie Bellestre, boss de la Fédération internationale à l'époque, compatriote
sacré personnage
d'Alain Prost. Et on me traite comme un criminel, estime Ayrton Senna. Prost change de rouge et de maison. Il passe chez Patrick Juillard.
Chez Ferrari, bien sûr.
Exactement. La rivalité avec Senna n'est pas terminée. Fin de la saison 90, nouvelle course décisive au Japon, nouvel accrochage entre nos deux amis. Et là, c'est dès le premier virage. Ça ne s'invente pas. Et cette fois, c'est Senna qui devient champion pour un deuxième titre de champion du monde.
And a collision.
Gaia Batida.
Senna has been hit. Alain Prost and Ayrton Senna have come together again and they are both off the racetrack. This is unbelievable.
A batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato.
We don't know yet whether we're going to see a red flag. We haven't seen any yet, so it looks as if the race is going to continue.
O campeonato está terminado. E Ayrton Senna é o campeão de 1990.
Deux des plus grands champions de l'histoire de la Formule 1 dans le sable pour un final raté. Chacun accuse l'autre. Le plus meurtri, c'est bien sûr Prost. Réaction épidermique.
L'envie de lui mettre mon poing dans la figure m'a traversé l'esprit et j'ai tellement été dégoûté, vraiment. J'ai même pas eu, l'envie parce que je crois qu'il me dégoûte profondément.
On en était arrivé là, Patrick Juillard ?
Ouais, on en était arrivé là et moi je trouve que c'est symptomatique de deux conceptions en fait du pilotage et de deux façons de placer la limite. Je pense qu'Alain Prost était un pilote plus rationnel, plus froid.
On le surnommait
le professeur et il basait plus sa carrière sur la mise au point et l'ingénierie pratiquement. Alors que Senna, c'était aussi quelqu'un de très intéressé par le développement des monoplaces qu'il pilotait, mais c'était surtout un pilote instinctif et un pilote qui plaçait sans doute la limite du risque beaucoup plus loin qu'Alain Prost. Et bon, il en est peut-être mort, même si son accident n'est pas dû à une erreur de pilotage, mais à un bris mécanique. Et je trouve que c'est symptomatique. Et moi, pour moi, Senna, c'est... Je me rappellerai toujours du premier Grand Prix où il s'illustre, le Grand Prix de Monaco 84 sous des trompes d'eau.
Alors là, il n'est pas encore chez McLaren.
Il est chez Tolman, une petite équipe anglaise.
Il dépasse un certain Alain Prost.
Voilà, il le dépasse pas, il revient sur lui et la course est arrêtée au moment où il allait le dépasser. Et finalement, Senna ne respecte pas le drapeau rouge et franchit la ligne en premier. Heureusement, il n'a pas été disqualifié ce jour-là, mais pour moi, c'est une injustice. Ce Grand Prix aurait dû se poursuivre et il aurait dû le gagner.
Allez, retour aux années 90. Troisième sacre d'Ayrton Senna au championnat du monde l'année qui suit donc l'accrochage de 90. 1991, moins de polémique. Une victoire à Sao Paulo, au passage en point d'orgue, Annie Gasnier.
Ah!
Et celui que vous entendez crier, là, déchirer son micro, c'est Ayrton Senna. Fucking hell, criera-t-il notamment. Très heureux de gagner à Sao Paulo. À ce moment-là, il va remporter son troisième championnat du monde.
Il avait aussi très mal, parce que ce jour-là, sa boîte de vitesse était cassée. Il avait deux vitesses,
Il est inconscient à la fin.
Et, oui, pratiquement. Et d'ailleurs, on voit sur le podium, il a du mal à soulever la coupe. Et finalement, il la tendra d'un seul bras et il y parviendra. Et on entend cette musique caractéristique.
Exactement, il y a une musique qui est donc dans cet extrait du documentaire d'Asif Kapadia. Et c'est une musique.
C'est une musique qui avait été commandée par la chaîne Globo pour la diffuser à chaque fois qu'Ayrton Senna gagnerait un Grand Prix. Et il en a gagné 61. Donc à chaque fois, il diffusait cette musique qui avait été créée par un personnage, un musicien qui s'appelait Eduardo Souto Neto. Et c'était diffusé à chaque fois. Et à chaque fois, on entendait Ayrton Senna. On entend le commentateur Galvão Bueno, qui était son ami en plus, et qui disait Ayrton Senna do Brasil à chaque fois. Et il y avait un peu comme pour le foot, après, où ils avaient créé un autre générique. Et c'est vrai que c'était le dimanche matin, ça berçait les Brésiliens. Quoi. Ayrton Senna do Brasil, c'était le personnage qui gagnait dans le monde et sur la scène mondiale.
88, 90, 91, on a donc les trois sacres de Senna au volant de sa McLaren. On va parler des dernières années de sa carrière et de sa réconciliation avec l'ennemi, rival, coéquipier de toujours, on ne sait trop, Alain Prost. Mais tout de suite, on va faire le point sur l'actualité sportive dans Mondial Sport. Et c'est avec Sofiane Amazian.
Bonjour Hugo.
Bonjour Sofiane. Football, ouais. À la une, le dénouement des championnats européens.
On s'approche, ouais.
On file où ? En première ligue ?
Allez,
d'abord.
On commence par l'Angleterre. Allez. C'est là où il y a le plus de suspense pour la première place.
Exactement.
Arsenal, alors, toujours leader. Victoire 3-0.
Il s'accroche.
Ils s'accrochent. Ils le veulent, ce titre qui leur échappe depuis 2004. Victoire face à Bournemouth, 3 buts à 0. Une victoire pleine et entière. Hein. Les Gunners sont archi dominés leur adversaire. 3 beaux buts. Un Kai Havertz à la pointe de l'attaque qui est métamorphosé depuis qu'il est arrivé à Arsenal. Donc les voilà pour l'instant à 4 points de City, deuxième. City qui a un match en moins et qui est en train de jouer en ce moment. Ça vient de démarrer face à Wolverhampton. Bon, c'est mathématique. Si City remporte tous ses matchs, ils seront champions. Mais il y a encore un petit espoir. Arsenal pourrait soulever la coupe à la fin de la saison.
Il lâche moins tôt, enfin il ne lâche pas tout simplement. L'année dernière ça s'était arrêté un peu avant.
C'est ça.
Le foot en Ligue 1.
C'est pas la première place qu'on joue là, c'est plus
non.
Que c'est le podium. Déjà joué. Ouais, à Paris est plus fort que la concurrence, en tout cas en Ligue 1 on joue le podium Hugo, trois candidats pour deux places, il y en a deux qui jouent aujourd'hui, Monaco en ce moment est en train de battre facilement Clermont 3 buts à 1 pour garder cette deuxième place. Et pour l'instant, à la troisième place, c'est Brest qui jouera ce soir face à Nantes. Une victoire pour aussi garder cette troisième place qualificative directement pour la Ligue des Champions, on le rappelle. Quatrième, c'est Lille pour l'instant qui devrait, s'ils sont encore quatrième, passer par un barrage pour ensuite jouer cette fameuse Ligue des Champions. Donc il y a encore du suspense à trois journées de la fin en France.
Tout ça, on y revient bien évidemment dans Radio Foot International cette semaine. Je parle sous le contrôle de l'atelier.
Je confirme.
Passons au basket. Il y a aussi du basket dans l'actualité. La Basketball Africa League dont on parlait la semaine dernière dans Mondial Sport en longueur.
Avec une étape à Dakar, ce qu'on appelle la Conférence Sahara, où il y a quatre équipes qui s'affrontent pour deux billets pour jouer la phase finale à Kigali au Rwanda. La troisième place peut être qualificative, cette partie des meilleurs troisièmes. Mais là, on rentre dans les spécificités. Juste pour vous dire qu'il y a l'AS Douane dans ce groupe qui jouera ce soir face aux Rivers Hoopers du Nigeria. En ce moment, un match entre Monastir et l'APR, c'est une équipe du Rwanda. Eh bien, il y a eu match nul à la fin du temps réglementaire. Alors on se quitte pas, bons amis, au basket, il y a des prolongations, donc c'est en cours. Le match n'est pas fini, ça promet du beau spectacle.
Merci Sofiane Amazian.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Mondial Sport, hommage à Ayrton Senna, décédé sur le circuit d'Imola en 1994, il y a 30 ans, presque jour pour jour. Son dernier titre de champion du monde, c'est 1991. Les années qui suivent sont un peu plus difficiles. Il rejoint Williams, toujours une écurie anglaise, en 1994, prenant la succession d'Alain Prost, justement, qui vient, lui, de prendre sa retraite après un quatrième sacre de champion du monde. Je crois qu'à l'époque, c'est le record. Il faudra attendre Schumacher pour que ce record tombe. Et comme un symbole, juste avant Imola et sa mort, juste avant le dernier virage de sa vie, Ayrton Senna s'adressera aux Français, Alain Prost, donc, depuis son cockpit.
Attention,
hello to my dear, our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain.
Alors toujours en direct d'Imola avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard.
Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là, on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que, comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais.
Malheureusement, de futur, il n'y aura pas, puisque quelques heures plus tard, quelques heures après cet extrait d'Alain Prost qui réagit à ce message d'Ayrton Senna, « My dear friend Alain, tu nous manques », eh bien, Ayrton Senna décède, victime donc d'un accident sur le circuit d'Imola. Alain Prost ne reverra Ayrton Senna qu'à l'occasion des funérailles de ce dernier. On en parlait avec vous, Annie Gasnier, Patrick Juillard est également avec nous. Et puis, Lionel Froissart, auteur de l'icône Immolée, vous connaissiez bien Ayrton Senna, vous le faites parler dans ce roman. Où Ayrton Senna un peu imaginaire et imaginé s'exprime sur lors de ses derniers instants. Alain, my friend, c'est le titre de l'un des chapitres avec cette phrase: entre Alain et moi, les choses sérieuses ont commencé à Imola. Donc de Imola à Imola, c'était quoi l'histoire de Senna et de Prost, de la haine, de l'amitié, de l'amour, de la rivalité? Comment vous utiliserez il y a un peu tout ça à la fois, c'est ça?
Juste deux petites précisions.
Allez-y.
Ayrton n'a gagné que 41 fois, hein, pas 61, il a fait 65 poules. Et il ne faut pas oublier Juan Manuel Fangio qui était 5 fois champion du monde. Hein.
Le record c'était celui de Fangio, excusez-moi, le gros pilote argentin, idole d'Ayrton Senna.
Vous aviez dit à l'époque sur les 4.
Exact, oui. Et ce qui est dingue, c'est que Fangio, il est décédé un an plus tard que qu'Ayrton Senna, ça paraît incroyable. Bref, cette histoire d'Imola, en pensant à la rédaction de ce livre, etc., je me suis aperçu qu'il s'était passé beaucoup de choses à Imola, dans l'histoire du sport automobile évidemment, mais surtout dans l'histoire d'Ayrton Senna qui nous intéresse aujourd'hui, et notamment au-delà du record de pole position à Imola pour Ayrton, qui est de 8 pôles, etc. Les ennuis ont commencé avec Alain, en fait, à Imola en 89. Cette année-là, et c'est dingue parce que tout se regroupe, s'entrecroise. Cette année-là, 89, très vite après le départ, il y a un très grave accident pour Gerhard Berger, qui allait devenir un des meilleurs amis de Ayrton, et qui se crache à Tamburello, ce fameux virage de Tamburello. La Ferrari prend feu, il reste 12 secondes dans le feu, Berger. La course est arrêtée, évidemment. Et sur les voitures s'arrêtent donc sur ce qui était la première grille de départ. Alain et Ayrton sortent de leur voiture, discutent entre eux. Je me souviens, je me suis approché d'eux et ils se demandaient ce qui s'était passé. Donc, je leur parle de Berger et je leur dis, oui, ça paraît assez sérieux, mais bon, ils l'ont sorti de la voiture. Bon, voilà. Puis, Ron Dennis arrive, m'écarte et veut discuter avec ses pilotes. Et il se trouve qu'on a appris après que Alain et Ayrton, au-delà de parler de l'accident, se sont mis plus ou moins d'accord sur une idée de pacte. Enfin, vous lirez dans le livre, c'est un peu compliqué cette histoire de pacte de non-agression avant le premier virage. Bref, au premier départ, Ayrton avait pris le meilleur sur Alain, il était parti de la pole, bon, tout était en ordre. Deuxième départ, Alain lui reparle c'est Ayrton qui fait l'erreur de parler à Alain de « Alors, notre pacte, on fait quoi ?» Donc, Alain est d'accord pour ne pas qu'il y ait d'attaque entre eux jusqu'au premier virage, en tous les cas. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans l'esprit d'Ayrton, la possibilité, l'éventualité de rater son départ n'existait pas. Parce que ce sont des champions avec un ego démesuré, qu'ils savent qu'ils sont et se persuadent d'être les meilleurs en toutes circonstances. Donc, dans l'esprit d'Ayrton, que je connaissais bien, c'était impossible de rater un départ. Sauf que ce deuxième départ, il ne le rate pas vraiment, mais il part un peu moins bien qu'Alain, et il se retrouve derrière lui. Sauf que dans l'accélération vers Tossa, avant que le circuit soit modifié, il y avait donc cette courbe de Tamburello, la courbe Villeneuve, puis le virage de Tossa qui était un frein qui nécessitait un gros freinage. Et à l'approche de Tossa, eh bien, Ayrton est bien embêté parce qu'il voit qu'il est beaucoup plus rapide qu'Alain, et donc il le double, ce qu'il n'aurait pas dû faire, selon leur accord qui est, encore une fois, il faut en lire les détails dans le livre. Parce
et donc ça, selon vous, c'est le point de départ, donc Imola 89, le point de départ des ennuis qu'on a relaté.
Enfin, c'est la genèse du début. Oui, la genèse du début de l'histoire. Je fais très vite. Bref, le circuit, Ayrton gagne. Alain fait une course pourrie, il fait même un tête-à-queue, ce qui lui arrivait jamais, il est vert, il n'assiste pas à la conférence de presse, prend une énorme amende, bref, il quitte Imola très fâché, et quelques jours plus tard se déroule à Pembrey, au Pays de Galles, des essais pour McLaren en perspective de Monaco, et les deux pilotes sont réunis par Ron Dennis, et Ron Dennis les engueule tous les deux, et Ayrton, qui était très sensible, très émotif, pleure. Parce qu'il se fait disputer comme un petit enfant et il a un petit peu de mal avec ça. Bref, mais ça aurait dû rester dans le cadre de leur discussion à trois. Ron Dennis, Alain, Ayrton. Sauf que Alain a discuté de ça avec un journaliste français qui l'a fait paraître dans les colonnes du journal L'Équipe. Et évidemment, Ayrton, en arrivant à Monaco, voit ça le jeudi. Et à partir de ce jour, il s'est senti tellement vexé et trahi lui aussi d'une certaine façon. Il n'a plus adressé la parole à Alain, en tous les cas de manière amicale. Il continuait à travailler dans les briefings techniques, à échanger des informations avec les ingénieurs.
Mais la complicité, donc, c'était envolée, si je vous suis.
Terminé. Voilà.
Et alors, Lionel Froissart, donc si les débuts des ennuis, c'est 89 Imola, la fin de vie pour Senna, c'est 94, toujours à Imola, mais c'est peut-être aussi la fin des embrouilles avec Prost, donc il y a ce message My Dear Friend Alain, et puis vous imaginez un dialogue, je ne sais pas s'il a vraiment eu lieu dans votre roman, vous le retranscrivez, mais qui finit par Alain qui dit « Sois prudent Ayrton, gagne-moi cette putain de course ». Est-ce que ça a vraiment existé, cet échange, juste voilà, avant la course?
Pour en avoir parlé avec Alain, évidemment, certains éléments existent. Le gagne-moi cette putain de course, c'est moi, mais ça aurait pu, c'était tout à fait possible dans son esprit, quoi. Mais en tous les cas, ils se sont parlé avant, quand Ayrton, comme je l'explique, descend de son motorhome en combinaison, il aperçoit Alain avec des invités de chez Renault, donc ils échangent quelques mots et il lui dit viens me voir avant le départ. Ce que Alain rechigne un peu à faire, parce qu'on sait que c'est un moment de grande concentration. Et donc il le rencontre dans le stand de Williams, juste avant le départ, quand Ayrton est en train de se préparer. Et là, ils discutent un petit peu. Et donc Alain m'a donné quelques éléments de cette discussion, que vous retrouverez donc un peu reformulés dans ce livre. Et voilà, c'est la dernière fois qu'ils se parlent, mais c'est pas à ce moment-là qu'ils se... C'est la vraie réconciliation, elle a lieu déjà au soir du Grand Prix d'Australie 93, que Ayrton gagne, qu'Alain termine deuxième. Donc
il est champion du monde.
C'est une très belle image qu'il le fait monter, et il le fait monter sur la première marche avec lui.
C'est d'ailleurs leur dernier podium, ensemble et séparément en Formule 1.
Bien sûr.
Merci beaucoup Lionel Froissart, votre roman c'est L'icône immolée,
c'est fini. Oui, pardon.
Édition en exergue, collection La Nuit d'Avant. On vous libère parce que vous avez de la F1 actuelle à couvrir, la passion ne vous lâche pas. Merci beaucoup d'avoir partagé vos souvenirs d'Ayrton Senna, d'Alain Prost et nous avoir parlé de votre livre L'icône immolée. Un peu de musique toujours brésilienne car nous parlons toujours d'Ayrton Senna dans Mondial Sport. Sombrinha Martino Davila et la chanson c'est Panela, ça part.
Traz a panela, mulher. Traga a panela pra eu bater no fundo dela com o cabo da colher. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Não é? Ô mulher, traga a panela pra eu bater no fundo dela com o cabo da colher. Pois se não fazer um arrasta-pé, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé.
Eu já vivi muito tempo e vou viver muito mais. Já vi coisa nessa vida de fazer cair pra trás. O mandado é quem faz tudo, o mandador é quem desfaz. O mandado não tem nada, o mandador tem é demais. Qual é?
Ô mulher, taca a panela pra eu bater no fundo dela. Com o cabo da mulher, pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé.
Quem tem medo fica em casa, quem não tem que vá viver. Caia no meio da rua pra amar ou pra sofrer, mas sabendo que na vida o mais certo.
Sombrinha, Martino Davila, Panella, le choix de RFI, musique.rfi.fr pour du bon son, c'est la seule adresse. Mondial Sport, le dernier virage de notre émission, hommage à Ayrton Senna, mort le 1er mai 1994 dans sa voiture, il y a près de 30 ans jour pour jour. À l'occasion de ce triste anniversaire, une exposition lui rend hommage à Rio de Janeiro, exposition inaugurée mercredi dernier, donc le jour des 30 ans de sa mort. Elle retrace la vie d'Ayrton Senna. Depuis 30 ans, le monde a évidemment bien changé, mais Senna est toujours aussi présent. Et la modernité, eh bien, elle aide à garder vive sa mémoire, puisque dans l'exposition de Rio dont je vous parle, sa voix eh bien, a notamment été reconstituée grâce à l'intelligence artificielle. Le reportage de notre correspondante actuelle, Annie Gasnier, votre successeuse, Sarah Cozzolino.
Vous ne pouvez pas imaginer comment un coureur se sent quand il gagne une compétition. Je vais vous raconter comment tout est arrivé. La voix d'Ayrton Senna semble sortir de son casque aux couleurs du Brésil. Il invite le visiteur à redécouvrir son histoire, l'histoire du plus grand pilote de Formule 1 du Brésil. L'exposition « Moi, Ayrton Senna » a généré sa voix grâce à l'intelligence artificielle.
Aucune phrase n'a été inventée. Tous les propos ont été tenus de son vivant. Mais nous avons fait un mixage de plusieurs interviews et calibré sa voix avec d'autres centaines d'heures de vidéos auxquelles nous avons eu accès grâce à la famille Senna.
Karina Israël est la commissaire de l'exposition. À travers des images d'archives, mais aussi des enregistrements sonores de sa grand-mère, de sa mère et de sa sœur, nous en apprenons un peu plus sur celui qui a fasciné plusieurs générations de Brésiliens.
Le public comprend qu'il avait déjà cette envie de défi, de vitesse. C'était déjà sa passion. Dès le plus jeune âge, il ne tenait pas en place.
Daniel Pascoal Mendonça a fondé l'un des fan clubs de Ayrton Senna au Brésil. Chez lui, il a créé un mini-musée avec 3000 objets de son idole. Aujourd'hui, il est venu avec son fils de 6 ans.
Mon fils peut supporter n'importe quelle équipe de foot. Il n'a juste pas le droit de ne pas aimer Ayrton Senna. C'est un genre d'étoile, comme une météorite. Il y a une personne comme ça par siècle.
Le mythe Senna commence dans les années 1980. Le Brésil vit alors une période sombre au lendemain de la dictature militaire.
Les Brésiliens avaient un sentiment d'infériorité par rapport aux autres pays. Ayrton nous a donné ce sentiment qu'on était capable, qu'on pouvait prétendre à de grands objectifs. C'est son principal enseignement, le dépassement de soi, la recherche du perfectionnement.
De la mythique musique qui accompagnait ses victoires à la combinaison rouge qu'il portait lors du Grand Prix du Brésil en 1993 ou encore son casque jaune du Grand Prix d'Europe la même année, autant d'éléments qui replongent les fans dans le passé.
J'en ai les larmes aux yeux, je revois les images de ce moment terrible. Au Brésil, tout le monde, même ceux qui n'étaient pas fans de Formule 1, suivaient les courses de Senna. Non seulement c'était un excellent professionnel, mais en plus il était incroyablement charismatique.
Ele era muito, muito, muito carismático.
Edna et son amie Sandra se souviennent très bien du tragique accident.
Ma fille était toute petite et elle se demandait pourquoi je pleurais pour une personne que je ne connaissais même pas. Parce qu'il portait notre drapeau, il nous rendait fiers d'être
brésiliens. 30 ans plus tard, le souvenir d'Ayrton Senna continue d'émouvoir les Brésiliens et son héritage reste présent, notamment grâce à sa fondation qui encourage l'éducation pour les Brésiliens les plus défavorisés. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Annie Gasnier, vous confirmez?
Oui, l'Instituto, comme on l'appelle, Ayrton Senna, qui a été monté par sa sœur, Viviane, qui parlait très très bien français, que j'ai rencontré souvent. Elle avait lancé cette fondation parce qu'avec son frère, ils avaient décidé de la créer. Et dans le bureau d'Ayrton Senna, parce qu'il avait son bureau symboliquement dans cet immeuble de Pinheiros à San Paolo, il y avait une photo d'Ayrton Senna avec Fangio, le pilote argentin, qui avait, comme le disait tout à l'heure Lionel Frossard, cinq grands prix, et c'était le rêve, cinq titres de champion du monde, et c'était le rêve de Senna de réussir à égaler. À l'époque, il fallait réussir à égaler.
Il aurait certainement pu le faire.
Il rêvait d'aller chez Ferrari, et Jean Todt l'a confirmé après. Il y avait un rêve qu'il y aille ensuite, quoi.
Et vous avez une photo, pas vraiment une photo, plutôt une image, un dessin. C'est un personnage
pour
de BD
enfants,
désormais, Senna.
C'est Ninia. La BD a été lancée en 1994, un dessin animé. Alors, il est aussi télévisé, donc c'est un dessin animé et un dessin de bande dessinée dans les kiosques pour les enfants. Et c'est Ninia, et vous voyez, il a la combinaison rouge, parce que même si à la fin de sa vie et au moment de l'accident, il était en bleu, parce que c'était les couleurs de la voiture de Williams, là, il était en rouge quand il était encore chez McLaren, avec ce casque que Sige Mosca avait fait jaune. Il avait exagéré la couleur jaune du drapeau brésilien, qui est avant tout vert, et il y avait cette bande bleue et cette bande verte. Et Senna, donc, à chaque fois qu'il arrivait à un Grand Prix, sortait aussi son drapeau brésilien, ce qui donnait une grande fierté à toute la population.
Patrick Juillard, l'époque de Senna, elle correspond à quoi dans l'histoire de la F1 par rapport aux époques qui vont suivre, le fait qu'il ait eu un accident, un week-end où il y a eu beaucoup d'accidents, il correspond aussi à ça, une époque où ça a été encore dangereux de faire de Formule 1.
La Formule 1 reste dangereuse, mais ce qui est terrible dans ce sport, et la mort de Senna en est un exemple parmi d'autres, c'est que la mort devance toujours le progrès en termes de sécurité, et c'est souvent, malheureusement,
comme
à la
dans
suite,
l'aviation.
Voilà, exactement. C'est souvent à la suite d'un grave accident, parfois fatal, comme celui de Senna, que des progrès sont faits. Et là, par exemple, c'est le cas pour ce qu'on appelle la cellule de survie dans les monoplaces, qui était déjà en discussion, qui était déjà en projet avant la mort de Senna et Ratzenberger, qu'il ne faut pas oublier, et qui est devenue une réalité ensuite. Et pareil pour le malheureux français Jules Bianchi, le pilote niçois.
Ça, c'est beaucoup plus récent.
Mort en 2016 et qui a ensuite donné lieu à la... au halo sur les voitures pour protéger la tête du pilote en cas de choc.
Il y a une chose quand même qu'il faut signaler, c'est qu'on ne sait toujours pas véritablement de quoi est mort Ayrton Senna. Qu'est-ce qui a provoqué l'accident? On ne sait pas s'il y a eu un micro-malaise par exemple du pilote. Sa voiture va tout droit dans le virage de Tamborello. On ne sait pas s'il y a eu ça ou si c'est une défaillance mécanique. Ça...
Colonne de direction, voilà. D'après ce qui a été dit. Mais
on ne sait pas si elle s'est dessoudée à cause de l'accident ou avant l'accident. C'est un peu l'inconnu et ça n'a jamais été élucidé.
Oui, et puis on ne sait pas vraiment l'heure exacte, malheureusement, à laquelle il est mort précisément.
Vraisemblablement, la mort cérébrale était sur le circuit déjà.
C'est ça, sur le coup.
Mais il ne voulait pas arrêter le Grand Prix.
C'est ça, vous l'avez dit.
Un peu de Radio Foot dans Mondial Sport pour rendre hommage à quelqu'un qui est mort il y a 30 ans, mais qui ne nous quitte pas vraiment, ne nous a jamais vraiment quitté. Merci Annie Gasnier, merci Patrick Juillard d'avoir participé à ce Mondial Sport réalisé par Olivier Roux en pole position pour un nouveau journal dans quelques instants. Nicolas Brousse, très bonne soirée sur RFI.